Vous écoutez
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Evan Fournier va au poignet, 13-0 pour l'Olympiakos, temps mort pour Thiago Splitter. Il vient de prendre un blitz terrible, 18-0 pour l'Olympiakos, c'est pas possible. L'Olympiakos qui est revenu, qui vient de passer 20 points. Le scénario de folie.
Short, ballon vite avancé sur Mao Delon,
et c'est le but qui pouvait arriver. Il reste 10 secondes à peine. Evan Fournier qui perd le ballon. Paris qui va gagner. Nadir Ishtim qui prend pas le risque.
Allez.
Et Paris qui s'impose. La 10e victoire de suite.
Les commentaires de nos amis de Squeak, encore un exploit. Mais où va s'arrêter le Paris Basketball? Vendredi soir, les Parisiens ont signé, vous l'avez entendu, un exploit majuscule au Pirée sur le parquet de l'Olympiakos, enchaînant une 10e victoire de suite en Euroleague. Le début de saison est phénoménal. 2e de Betclic Elite, 1er en Euroleague. Et ce soir, le Paris Basketball accueille dans sa nouvelle salle l'autre géant du championnat de France, Monaco, pour la première fois depuis très longtemps, le basket français de club. Et sur le devant de la scène médiatique, en tout cas, la musique qui fout les jetons. Et cette question, les exploits de Paris, est-ce un tournant pour le basket français? Oui ou non, Sarah Pitkowski?
Ah oui.
C'est oui. Christophe Cessieux?
Je pense, mais il faut que les dirigeants du basket français soient à la hauteur des exploits des clubs français.
Ok, donc c'est mesuré pour notre ami Christophe. Philippe Saint-André?
C'est oui.
C'est oui. Stephen Brun?
C'est oui.
C'est oui aussi, avec un cérémonial qui te va bien. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste basket, notre commentateur sur RMC Sport, Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Bonjour à tous.
Eh oui, un Valadon peut en cacher un autre.
Oui, Jean-Charles Valadon qui est avec nous, l'archer, c'est ce que tu veux nous dire. Ici à l'Alpe d'Huez, il n'est pas à l'Alpe d'Huez notre ami Arnaud Valadon, mais il veut nous parler du Paris Basketball, Arnaud, qui est le nouveau phénomène du basket français.
C'est vraiment le club tendance en ce moment à Paris. Né en 2018, il atteint déjà des sommets. Premier élément d'explication, l'ambition de voir grand et d'imposer le club comme une marque forte avec la vision américaine des deux propriétaires. Les explications du directeur marketing, Julien Jalouzet.
Ce qu'a toujours dit le président David Kahn, on veut être la deuxième marque de sport à Paris, derrière le Paris Saint-Germain, qui est évidemment un très grand frère, hein, qui est très loin. Mais on veut prendre cette deuxième place, parce qu'on est le basketball, qui est un sport qui plaît beaucoup, qui a 12 millions d'habitants plutôt jeunes dans le Grand Paris. On a un coup à jouer, et c'est ce qui est en train de se passer, quoi.
Le sportif fonctionne avec des victoires, mais aussi un basket très spectaculaire. Et il y a enfin une salle digne de ce nom, Fini Coubertin ou Carpentier. Là, c'est l'Adidas Arena, Porte de la Chapelle, 8000 places, construite pour les Jeux, et dont le Paris Basketball est le club résident.
Le cœur du produit, c'est j'incite tous les gens à venir voir un match à l'Adidas Arena, qu'ils soient fans de basket ou pas, parce que pendant 2 heures, je suis sûr qu'ils vont passer un bon moment. Et ça, il y a peu de gens qui peuvent le dire, en fait, je pense. Et cette année, ça vient à nous. On a eu là Omar Sy, on a un athlète olympique par match, les gens adorent ça. Avec des profils très différents, des joueurs de football, des Aknani, Malik Bentala, Omar Sy, Alice Belaïdi, donc plein de profils hyper différents, ouais.
Des VIP, mais pas que, il y a les fidèles, le COP Parisi est présent depuis le début. Redouane, il est un membre historique et il explique pourquoi il est séduit.
On le répète à chaque fois, mais c'est un club qui représente enfin la ville de Paris. Tu peux venir de n'importe quel environnement de Paris, de banlieue ou de Paris même, toute classe sociale confondue. Et c'est ça en fait, c'est pour ça que le projet marche, clairement.
Et la différence majeure, elle est bien là, avoir su comprendre que le public hétéroclite parisien et le faire venir, s'adresser et ne plus s'adresser à une niche. C'est l'avis de Christophe Denis, entraîneur de basket qui a connu les différentes aventures, le Paris Basket Racing, champion 97 et qui a révélé Tony Parker, puis ensuite le Paris Levallois.
Le Paris Basket Racing début des années 2000, on était quand même vers un public plus d'initiés. C'était Coubertin, c'était 3500 spectateurs. Le Paris Basketball fait vraiment la différence entre la performance sportive et la performance sociale. Et je pense qu'il y a au moins autant d'énergie employée au sein du club pour satisfaire des gens qui ne comprennent rien au basket. Tire de l'Adidas Arena en ayant pris autant de plaisir que quelqu'un qui a vu jouer.
Ne plus être une niche, on l'a bien compris. Merci beaucoup Arnaud Valadon, tu restes avec nous pour ce débat. Ce qui est en train de se passer là autour du Paris Basketball, est-ce un tournant pour le basket français? On en parle dans les grandes gueules du sport. On vous attend évidemment au 32-16. Chers auditeurs, c'est oui, il y a une étincelle. Tu veux nous en parler, Sarah Pitkowski, pourquoi oui?
Il y a une étincelle, mais en fait, si on regarde de plus près, moi je suis prête à me lancer en disant que le basket français est peut-être la deuxième nation mondiale de ce sport. On se souvient, il y a moins de 5 mois, on est quand même 3 fois vice-champion olympique de basket, avec les hommes, avec les femmes, avec le 3-3. On a un sport qui est aujourd'hui à plus de 700 000 licenciés. Je crois qu'on n'est pas loin du 3e sport français. On a un joueur qui est en NBA, qui est voué peut-être à être le meilleur joueur du monde, Wembanyama. On a deux, je vais pas me tromper, Steve, mais les deux, le classement du premier et du deuxième de la prochaine draft.
Zachary Xavier, Olivier Sarr,
quand ils sont deux Français. Oui. Donc en fait, t'as envie de te dire, mais ce qui est en train de réaliser l'exploit que réalise le Paris Basket. C'est à la juste mesure de ce que vaut le basket français. Monaco, même 4e aujourd'hui, Monaco a toujours été en Euroleague, quand même très bien placé. Donc ça me paraît tellement normal. Mais
le basket de club avait totalement disparu.
C'est une incompréhension. Il n'a pas disparu, il n'est pas diffusé. Mais les salles, elles sont pleines. Le championnat attire beaucoup de monde. Donc j'ai envie de te dire, il y a d'excellents joueurs. Mais pourquoi on le voit pas? Et pourquoi on le voit pas plus? Ben ça, c'est une grande question. Ça, c'est une grande interrogation.
Mais Christophe, c'est pour ça que effectivement, tous les éléments sont en place.
Tous les voyants sont au vert, en fait.
Retrouve sa place. Rappelez-vous, enfin, Steve a pas connu ça parce qu'il était trop petit à l'époque. Hein. Il a été petit un jour aussi. Le basket dans les années 80, tous les samedis après-midi.
Oui, sur Antenne 2.
Antenne 2, t'avais quand même Pau, Limoges qui se tirait la bourre. C'était le sport numéro 2. Derrière le foot, le basket vraiment était largement devant le rugby. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont laissé passer l'opportunité, ils sont laissés passer devant par le rugby. Et aujourd'hui, alors que tous les éléments sont en place, c'est-à-dire qu'un club dans une capitale, une salle magnifique, des joueurs incroyables qui sont pas en plus les superstars, mais qui justement arrivent à mordre les mollets des plus grands. Tout est en place, mais c'est vrai que c'est encore assez invisible. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut que les dirigeants soient à la hauteur de ce qui se passe. Je pense que les dirigeants du Paris Basket le sont. Maintenant, il faudrait quand même qu'on arrive, que les gens arrivent à voir le basket. Et c'est un peu comme le foot aujourd'hui qui s'est invisibilisé. Et le basket l'est depuis trop longtemps. Mis à part évidemment la NBA et tout ça, mais le championnat de France ou l'Euroleague, alors on les voit sur la plateforme, tu vas pouvoir en parler, Steve. Mais pour, je pense, redevenir un grand club, un grand sport en France, il faut le montrer et que les gens le voient.
Il faut le montrer et pas juste regarder sur les réseaux sociaux les highlights de la NBA et de Victor Wembanyama. Le basket en France existe également, et à travers ces exploits de Paris, est-ce que là il y a un tournant à aller prendre là? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour justement capitaliser dessus, Stéphane?
Déjà, ce qui est important, c'est que c'est Paris. La ville Paris, déjà, c'est une répercussion et des secousses plus importantes que Monaco. Parce que Monaco a fait des résultats exceptionnels. Ils sont allés au Final Four en Euroleague. Ça faisait je sais pas combien d'années qu'un club français n'était pas allé au Final Four. Mais ça passionne moins les gens que la capitale Paris. Déjà, c'était une énorme anomalie qu'à Paris, il n'y ait pas un grand club de basket, alors que toutes les autres grandes capitales européennes en ont un, deux, voire trois. Maintenant, il y a un problème dans mon sport. C'est qu'il y a une ligue qui vampirise beaucoup de choses, qui s'appelle la NBA, et qui captive un public de tout âge. Et ce public-là
Peu importe d'où il vient, finalement.
Oui, peu importe d'où il vient. Et ce public-là a du mal à se dire, il y a un championnat de France, ça fait un peu ringard pour eux. Le championnat de France, aller voir Chalon, aller voir Chalon-sur-Saône, aller voir Cholet, aller voir Le Mans, c'est ringard pour eux. Ce qu'est en train de faire Paris Basketball, c'est d'enlever ce côté ringard au basket
français. Parce qu'il y a les paillettes de la capitale.
Il y a cette salle qui est flambante neuve, qui est exceptionnelle. Ouais. Et surtout, il y a deux dirigeants, notamment David Kahn, qui est un ancien dirigeant de NBA, qui a ramené ce modèle-là dans la salle de Adidas Arena. C'est-à-dire qu'on vient pas uniquement pour voir le match de basket. Le match de basket, c'est la pièce rapportée. Tout ce qui se passe autour. Ils ont su intégrer la culture urbaine de Paris Basketball. Et je vois un public avec une moyenne d'âge bien plus jeune que dans toutes les autres salles du basket français. Et ça, c'est important. Mais vous avez résumé, vous avez mis le point là où c'est le plus important pour mon sport, c'est la diffusion, l'accessibilité à plus de monde. Il y a des plateformes qui font du très bon travail, mais ça ne suffit pas. Ça reste une petite niche de passionnés qui vont aller acheter, qui vont aller regarder ces matchs-là. Moi, j'ai envie que Paris Basketball, Monaco et même la Zélande Euroleague soient accessibles à des gens qui aiment le basket, qui ont juste besoin pour leur télécommande et de mettre une chaîne. Et ce basket de club, je suis désolé, mais dans les rédacs, que ce soit RMC ou ailleurs, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Quand je veux faire un truc de basket, un peu moins maintenant, parce qu'il y a des Français en NBA, on en parle un peu plus, mais très longtemps, on se moquait du basket de club, de Boulazac, ça fait rire tout le monde, mais c'était ringard parce que ça n'intéressait pas le
public. Oui, mais là, il se passe quelque chose avec Paris.
Ça a longtemps été un sport de sous-préfecture.
Mais ça l'est encore.
Que le rugby a été aussi avant, avant de se développer dans les grandes villes.
C'est le deuxième sport co en France.
Mais oui.
Aujourd'hui, t'as quand même Lyon et Paris, qui sont deux des trois plus grandes villes de France, qui ont un club qui compte. Et effectivement, pour attirer le grand public et déringardiser le truc, effectivement, il faut que ce soit des grandes villes qui acquièrent un grand club et qui soient performants. Ça, et le rugby est passé par là.
Oui, oui.
Mais je suis pas sûr que
tu peux voir qu'ils sont ambitieux. Ils disent on veut être la deuxième place à Paris. Donc
après le PSG. Ouais.
On peut voir que le Stade Français peut être inquiet parce que déjà il y a une nouvelle salle et ça c'était important et un club parisien avait besoin d'une belle salle.
Mais une belle salle et elle est située à un endroit particulier. Oui. Elle n'est pas là où est le Stade Français, le PSG, le fameux 16e arrondissement. Exactement. La salle, elle est dans un endroit où effectivement elle peut réunir un autre type de population.
Oui, mais elle est dans Paris et c'est important. Aussi. Deuxièmement, ils ont des résultats parce qu'après il faut avoir des résultats.
À Paris, si tu gagnes pas, tu dégages.
Après, ce qui est sûr, c'est que visibilité, et puis Stéphane, tu en as parlé, les meilleurs joueurs, ils vont en NBA. Moi, j'ai un fils qui a 22 ans, qui a joué au basket. Ce qui l'intéresse, c'est l'NBA. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème, et il faut que les dirigeants du basket arrivent à mettre le basket sur des chaînes publiques.
Mais est-ce que c'est la responsabilité des dirigeants aujourd'hui? Il faut qu'il y ait aussi un groupe média qui prenne le pari, parce que des groupes de médias qui ont pris des paris sur le biathlon, ça c'est fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que les clubs fassent de plus, si ce n'est qu'il y a personne qui veut parier sur le championnat?
C'est plutôt, vous avez une ligue professionnelle aussi.
Mais oui.
Donc les clubs travaillent mieux, essayent de se moderniser, il y a aucun problème. Maintenant, je veux bien que les dirigeants soient pas forcément tout à fait responsables, mais quand vous faites 6 diffuseurs en 15 ans, c'est pas forcément que des bons choix non plus. Déjà, vous perdez votre public, même si vous avez un diffuseur un peu payant et tout ça, mais si ça fait 10 ans que vous restez dessus, vous pouvez fidéliser un plus grand nombre de personnes.
Les mêmes problèmes qu'au foot.
Voilà, mais là, à force de changer, tout se dilue, en fait, dans le problème de diffusion télé. Maintenant, Philippe a raison, c'est que nos plus grands joueurs français ne jouent pas ici. Ils sont en NBA. Sauf qu'aujourd'hui, notre championnat de France, avec ses trois équipes de Euroleague, elles permettent de ramener des garçons qui étaient peut-être parfois en échec en NBA et qui viennent se relancer, qui sont internationaux. On a plus d'internationaux que par le passé qui jouent dans notre championnat de France. À une époque, il y avait zéro mec de l'équipe de France qui jouait dans le championnat de France de basket. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Et il faut essayer d'aller accrocher le public avec ça. C'est-à-dire que ces garçons-là, vous allez les revoir aux Jeux Olympiques, aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Ils jouent dans notre championnat. Et il faut absolument. Ce sport, il est tellement beau. Je suis désolé. On va faire la comparaison avec le football, mais combien de fois on peut se faire chier en regardant un match de football, que ça soit à la télé ou dans un stade. Sur un match de basket, tu ne t'ennuies jamais en regardant, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Genre, je vais te dire qu'il y a un panier toutes les 30 secondes. Mais j'ai emmené des quantités de personnes qui ne connaissaient même pas les règles du basket dans une salle, et c'était pas la Adidas Arena, c'était dans d'autres salles. Ils en sont sortis heureux et émerveillés du spectacle et de l'ambiance qu'il y avait. Et ça, il faut capitaliser là-dessus.
Et aujourd'hui, la fin de l'expérience est devenue un truc super important. Et ça, à Paris, au Paris Basket, ils le font. C'est-à-dire tu vas dans énormes, la salle, t'as un vrai spectacle.
Ils ont fait une boutique ouverte 7 jours sur 7, où tu peux acheter. Ils ont changé le logo exprès pour que le logo rende un peu classe, parce qu'ils ont envie qu'il y ait des gens qui se baladent dans les rues de Paris avec des goodies et du merch Paris Basketball. Ils sont très bons là-dessus. Ils sont dans le modèle américain. Ils créent des associations. C'est très bien.
Est-ce que, à l'image de ce qu'a fait le PSG, mais un peu moins maintenant, le passage pour devenir encore plus grand, ce serait pas d'arriver à attirer des stars. Est-ce qu'un mec comme Fournier, qui aujourd'hui est parti en Grèce, tu pourrais l'attirer dans les filets du basket français?
Parce que pour avoir discuté avec Evan, et Evan l'a dit dans une interview, il voulait venir au Paris Basketball. Le Paris Basketball a dit.
Parce que c'est un truc qui lui correspond.
Le Paris Basketball a dit non, ça ne nous intéresse pas.
Ah ouais.
Ils ne sont pas dans cette optique,
d'accord,
pour l'instant, de faire des superstars. Parce que là, ils sont en train de former un club, former une ossature d'équipe qui a été brillante l'année dernière. Ils ont gardé à peu près la même ossature pour être bon cette année. Et ça fonctionne à merveille. Donc ils se disent, est-ce qu'on ramène une superstar? Est-ce que ça ne va pas chambouler tout ça?
Ouais, mais surtout aussi pour avoir des grands joueurs, il faut avoir des droits télé. C'est aussi ça.
Oui, ils ont leur propre sponsor aussi. Ils ont besoin d'être visibles. Mais là, le Paris Basket, de ce que tu nous racontes, ça va véritablement devenir, s'ils arrivent à rester au plus haut niveau comme oui. ils le sont en Euroleague.
Sachant qu'ils n'ont pas la garantie de rester en Euroleague, ils n'ont pas une licence A en Euroleague, ils se qualifieront la semaine prochaine en Euroleague par leurs résultats sportifs de cette année.
D'accord, ils n'ont pas la franchise assurée. Ils vont devenir la locomotive, ils vont devenir la véritable locomotive du basket français, du basket de club français.
La grande différence avec Monaco, c'est que Monaco, c'est du mécénat. C'est un garçon qui est multimillionnaire ou voire milliardaire.
C'est pareil que pour le foot, c'est le.
Oui, un petit peu. Donc, à tout moment, ça peut être un peu bancal. Paris Basketball s'appuie sur une structure qui est quand même plus cohérente, où tu peux voir un peu plus loin dans le futur, avec des actionnaires qui sont très puissants. Donc, oui, et surtout que l'Euroleague, pour avoir discuté plusieurs fois avec eux, ça fait 10 ans qu'ils rêvent d'un club d'Euroleague à Paris, dans la capitale. Mmh. Paris les fait fantasmer, donc je ne vois pas une seule seconde Paris sortir de cette compétition. Maintenant, vous l'avez dit, à Paris, pour qu'il y ait du monde dans la salle, il faut que les résultats soient bons. Parce que s'ils sont derniers de l'Euroleague, je ne suis pas sûr que l'Adidas Arena soit en
place. Exactement. Tous les facteurs sont réunis aujourd'hui. Mais Stephen, pour tous ceux qui nous écoutent, qui découvrent aussi les performances, parce qu'elles ne sont pas forcément visibles, malheureusement, du Paris Basketball, cette équipe, déjà, est-ce qu'elle a ses chances en Euroleague? Parce que maintenant qu'ils sont premiers, nous, on se prend à rêver, à se dire, est-ce qu'ils peuvent aller sur le Final Four? Ou ils sont un peu en sur-régime? Est-ce qu'on peut essayer de répondre à cette question-là après une dizaine de journées, 13 journées, je crois, d'Euroleague?
10 victoires, 3 défaites. Leader de l'Euroleague après 13 journées, c'est monumental, surtout pour un club rookie qui ne connaissait pas. La plupart de ces garçons-là découvrent cette compétition. Ils ont 19 millions de budget, et quand on connaît comment se passe en France, les charges et les impôts, ils ont petite masse salariale par rapport aux 40 millions de l'Atlético Soupiré qui sont allés battre chez eux le club d'Evan Fournier. J'ai pas envie de te dire que je les vois à Final Four, parce qu'ils ont un jeu très atypique qu'on n'a jamais vu en Europe, c'est-à-dire qu'ils jouent à 100 000 à l'heure, que les défenses peuvent pas s'adapter parce qu'il y a trop d'imprévus. Il y a un mec qui tire à 10 mètres au bout de 3 secondes et il dit, attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils sont habités par une confiance hors norme. Pour l'instant, le jeu dénote avec ce qui est le jeu de Rolly qui est plutôt bien structuré. Donc pour l'instant, ils chamboulent toutes les équipes. Maintenant, il reste encore beaucoup de matchs, on n'est même pas à la moitié. J'ai envie de voir si les grosses structures vont s'adapter. Mais ils ont déjà fait la moitié du chemin. Ils sont quasiment avec 10 victoires, ils sont quasiment déjà en play-off, JC. Donc c'est exceptionnel. Mais allez voir cette équipe-là. Elle va vous chambouler. Moi, elle me chamboule. J'en ai vu des milliers de matchs de basket. Leur style de jeu me chamboule, en fait.
Et c'est qui les gros joueurs dans cette équipe?
C'est un garçon qui s'appelle TJ Shorts. Il porte bien son nom parce qu'il fait 1m75, Philippe. qui est meneur de jeu gaucher, qui découvre cette compétition, qui est le patron, le taulier de cette équipe-là, qui est peut-être un des meilleurs joueurs de la compétition. Un petit filou gaucher qui se faufile partout, qui n'est pas très adroit, mais qui va à une vitesse dingue. Et il fait péter. Et il y a Nadir Ifi, qui est un international français. On l'appelle Grosse Touffe parce qu'il a une grosse touffe de cheveux. Qui lui aussi n'a jamais eu peur de prendre un tir. Il est à 15-16 points de moyenne. C'est des garçons qui méritent d'être connus. Sincèrement, c'est une belle équipe de basket.
Ils sont un peu dans la surperformance en ce moment. Tu penses que ça peut,
ouais,
ça peut rester
ils sont dans le rouge là.
J'ai pensé à un moment donné à la surperformance, mais là ça fait 13 matchs en fait. Ouais. C'est long, c'est beaucoup 13 matchs.
Tu peux nous dire un mot sur l'entraîneur qui lui n'a pas non plus d'expérience, ce Brésilien.
C'est Thiago Splitter qui est champion NBA en 2014 avec les Spurs aux côtés de
Parker, l'expérience.
Qui est un garçon qui a tout gagné en Euroleague avant de partir en NBA. C'est sa première expérience en tant que coach titulaire. Il arrive à la suite d'un mec qui a monté cette équipe-là, qui est un coach finlandais, qui était parti en NBA, qui a été recruté par la NBA. Et lui, il a eu l'intelligence de dire, je vais rien changer. Enfin, très peu. Je vais garder la même structure que ce qui marchait la saison dernière. Et c'est un garçon qui découvre le basket de très haut niveau avec succès. Et lui aussi, sa cote est en train de grimper en flèche. Maintenant, il va falloir aussi se poser la question, si tous ces garçons sont performants, il va falloir, face à la concurrence.
Ouais, il va falloir augmenter les salaires.
Et les tueurs, il va falloir essayer de trouver une petite plus-value intéressante.
Il va falloir passer à 25 millions de budget.
Merci beaucoup Stephen Brun d'être venu nous voir.
Je reviendrai dans 3 semaines quand on fera un débat Paris Basketball, la dégringolade.
Non, on l'espère pas, surtout pas. Ce soir il y a le match à 19h, hein, Betclic.
C'est le choc Paris Basketball Monaco
face à Monaco. Et en Euroleague,
alors normalement c'est sur DAZN, et DAZN a décidé, parce que c'est une énorme affiche, de le mettre en direct sur la chaîne YouTube de DAZN.
Et ben voilà,
donc en clair et gratuit.
Voilà, exactement.
Et ben ça va faire beaucoup de bien, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce débat. Beaucoup de bien pour le basket de club français. C'est à 19h ce soir, Paris Basketball face à Monaco. Et vendredi soir prochain, autre journée d'Euroleague. Et là, c'est encore un choc franco-français entre l'ASVEL et le Paris Basketball. Bref, on en reparlera dans cette émission. Toutes les dernières informations sur rmc3.fr.
T'en parleras plus jamais.
Moi ?
Oui, tu respectes pas mon sport.
Non, tu vas parler de golf.
Tu vois, je parle même pas de golf alors que j'adore ça. Alors je vais parler de basket, promis. Merci. Surtout si Paris cartonne encore comme ça. Allez, à tout de suite sur RMC. Nous allons accueillir deux championnes qui ont décidé d'arrêter leur carrière à l'issue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elles vont nous expliquer comment ça s'est passé et puis évidemment leurs ambitions pour la suite. C'est Marine Boyer et Charlotte Bonnet. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.